Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Et bonsoir les amis, c'est Capture Mag Hebdo, celui du 7 avril 2017, et oui déjà en avril, c'est bientôt Pâques, il y a les œufs, il y a la chasse aux œufs, hein, et ce soir je ne chasse pas des œufs, mais je chasse des journalistes cinéma, et il y en a du bon du Calais, hein, de qualité qui est en train de bailler à côté de moi.
Et qui a pas vu les films.
Salut Rafik.
Salut ma belle.
Rafik qui est à côté de Stéphane. Bonsoir Stéphane.
Salut David.
Et puis on a un invité qui n'était pas venu depuis très longtemps mais qui était déjà venu dans le Capture Mag et on est très très heureux de le revoir. C'est Yannick Daran. Bonsoir Yannick.
Salut.
Et ce soir on va parler de l'homme aux mille visages, on va parler de Ghost in the Shell et on va parler de l'esprit de Cain de Brian De Palma. Voilà. Un beau programme.
Ghost in the Shell, l'original. Hein.
Exactement, celui de Mamoru Oshii. Voilà,
pas celui de machin.
Sorti au cinéma. Alors j'ai eu des échos plutôt positifs moi de celui qui est sorti au cinéma.
Écoute,
non, mais j'étais parti très négatif.
C'est
moi,
parce que c'est un bon film qu'on n'en parle pas ce soir, voilà.
C'est pour ça. Non mais vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu, ouais.
Et alors, c'est si catastrophique que ça?
On en reparlera.
D'accord, ok. Voilà, bah moi, sinon, je vais vous annoncer que pour la nuit au Max Carpenter, qui est début mai, je crois que 13 mai exactement, tout se passe très bien. On a pratiquement tout vendu et donc il doit rester moins de 50 places.
Ah, c'est New York 97, hein, on l'avait déjà annoncé, il me semble, dans un précédent podcast, mais c'est New York 97. Ouais.
Invasion Los Angeles, Veliv et
Los Angeles 2013.
Et Los Angeles 2013.
Et là, on parle les amateurs de... apprécieront.
Voilà. Et... Merci Rafik.
On sent que Rafik aime ces films. Hein. Il les aime profondément.
Non, mais Rafik, il fait une blague, mais il se rend pas compte, il est à la radio. il fait la tronche, il fait tout, tu vois. Donc en fait, nous, on rigole. Mais et je pense que les gens, à la maison, ils vont faire un.
Pourquoi Rafik voilà. dit ça?
Mais on a dit, c'est quoi? C'est l'Amérique de Carpenter.
C'est l'Amérique de Carpenter. Ça fait très, tout à fait écho.
Toi t'es pas un Trumpiste convaincu.
Pas tellement, non, pas tellement, mais bon.
C'est bien ce que je pensais.
Il en faut pour tous les goûts.
Espèce de marxiste.
C'est ça. En tout cas, on va avoir plaisir à redécouvrir ces films sur grand écran parce que mine de rien, c'est pas des films qu'on a l'habitude de voir souvent, surtout sur un écran comme celui du Max Linder. Et Yannick, tu es le bienvenu. Hein,
ouais, je vais venir.
Voilà. En tout cas, voilà, ça c'est l'annonce pour les nuits au Max. Quand il y aura d'autres nuits, je vous les annoncerai au fil des semaines. Et puis sinon, on va démarrer tout de suite avec l'homme aux mille visages. C'est parti. Qui engage sur l'homme aux mille visages? Stéphane, tu engages.
D'Alberto, le boss,
D'Alberto Rodriguez.
Alberto Rodriguez, le réalisateur de La Isla Minima.
Ouais.
Qui est sorti il y a 2 ans, donc c'est un cinéaste espagnol qui ma foi est très bien vu dans son pays puisqu'il est un peu sur tous les fronts pour les Goya, donc qui sont les Oscars espagnols et là c'est un film, alors c'est encore une reconstitution historique un peu comme La Isla Minima on va dire, parce que c'était déjà un film qui se passait dans les années, si je dis 70 je crois, ou 80
Non, c'était début des années 80, je crois.
Ouais, c'est ça. Et là, c'est un film qui se passe dans les années 90 et qui raconte une histoire vraie, en fait, qui raconte un vrai complot politique qui s'est déroulé en Espagne et qui a débordé en Europe à l'époque. Et c'est selon le point de vue d'un espion, en fait, à qui on demande de gérer la situation. Alors j'ai plus son nom au véritable espion, j'ai plus le nom parce que c'est le nom espagnol.
Ouais, ils avaient Francesco Paesa, un truc
Francesco
comme ça.
Francesco Paesa, c'est exactement
mais
ça. Voilà.
Je te corrige un tout petit peu parce que quand on dit complot politique, on a l'impression que c'est une machination organisée par l'État ou un groupuscule, alors qu'en réalité c'est un seul homme qui a travaillé pour les services secrets espagnols, mais qui ne faisait pas que ça, et qui a monté tout seul dans sa tête une énorme arnaque qui a impliqué du coup le gouvernement. Donc c'est plutôt le sens inverse.
Oui, c'est ça part, parce que là t'es en train de raconter le truc à l'endroit, mais le truc que le film le part un peu à l'envers là-dessus. Ça part en fait d'un homme politique qui a détourné des fonds et qui en fait se barre pour échapper à la justice, et qui est récupéré par Paesa, qui essaye de le remettre dans une espèce de logique, le mettre en confiance pour récupérer la thune, la faire blanchir, etc., etc. Enfin, il y a toute une... C'est un peu complexe, quand même, comme
histoire. C'est assez tortueux.
C'est un thriller politique.
C'est assez dense. Mais le truc, l'avantage du film, c'est qu'il est raconté donc en voix off. Je me rappelle plus le personnage, mais l'acteur, c'est José Coronado,
Qui joue un pilote et qui est le complice de
Paesa, voilà. Et en gros, toute la logique du film, en fait, c'est d'essayer de rendre ça le plus fluide et le plus ludique possible, on va dire.
Alors Coronado qui jouait dans Insiders dont vous aviez parlé, je crois.
Tout à fait, il est c'est un grand acteur espagnol. Hein, il est
avec une barbe, une belle barbe.
Ouais, pas dans celui-là, mais il était dans Box 507. Il était dans No Abrapas para los Madridos. C'est comment déjà en français ? Ça pas de pitié pour les. Voilà, je crois un truc comme ça, quoi.
Pas de répit pour les salauds.
Pas de répit pour les salauds, c'est ça. Et qui est sorti
de 2015.
Qui est sorti en vidéo. Et non, voilà, c'est un très grand acteur espagnol, mais là, qui a un second rôle. Hein. Et en gros, voilà, toute l'idée, c'est d'essayer de rendre le truc le plus fluide et le plus ludique possible, tout en maintenant quand même la complexité des enjeux, en fait, et de la façon dont ça s'est déroulé. Et là-dessus, moi, je pense que, enfin, c'est assez réussi parce que ça va vers une ligne assez claire sur la fin. En même temps, ça joue complètement de ses thématiques. En fait, quand on dit l'homme aux mille visages, c'est pas une image gratuite. En fait, c'est vraiment un truc qui est exploité jusque dans, je trouve, la dernière pirouette du film, en fait, qu'on va pas dévoiler.
Bah non.
Mais disons qu'elle est plus même marquée si à ce moment-là.
Ne spoilez pas, s'il vous plaît.
Non, spoilez pas. Mais par rapport à ce que tu dis, que je trouve intéressant, juste la notion du mille visages, c'est que il y a que les Espagnols, je trouve, pour nous faire rentrer dans un récit où on ne sait pas fondamentalement qui va être le protagoniste principal. Moi, je suis pas parti sur le film en connaissant l'histoire. Donc vraiment, je l'ai découvert ex nihilo comme ça. Et j'arrive, je me dis, ok, j'ai plusieurs persos, ça parle vite. Il y a un côté Scorsese quand même dans le film, la voix off qui couvre des actions des personnages qui vont droite à gauche, qui rentrent dans des portes, qui ressortent, qui manipulent. C'est très dynamique, c'est très très speed et magnifiquement filmé. Et il faut un petit moment pour se dire, alors en fait, on va suivre ce type-là qui est anti-charismatique entre guillemets au possible. Il ressemble à mon boucher du coin, vraiment. Il a rien, ce type. Et pendant tout le film. Tout le film, moi, je trouve, c'est un ressenti que j'ai eu, pendant tout le film, c'est un mystère, quoi. C'est-à-dire, on se demande en permanence, est-ce qu'il fait ça vraiment pour aider ce type? Est-ce qu'il fait ça pour sa gueule? Est-ce qu'il manipule? Est-ce qu'il manipule pas? Est-ce qu'il aime sa femme? Est-ce qu'il aime pas sa femme?
Tu parles, c'est Edward Fernandez, c'est
qui est le rôle principal du film, et qui est vraiment énigmatique, et c'est une des grandes forces du film, que de nous faire essayer de pénétrer la psyché, l'intimité de ce mec-là, mais finalement, de l'avoir que par rapport à ses actions, et d'avoir beaucoup de mal à le comprendre. Et ça, c'est un des éléments intéressants du film.
Parce que ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il est à la base, il est caractérisé par un tableau. Et en fait, c'est un tableau avec lequel, à chaque fois qu'il part de chez lui, en fait, à chaque fois, comme c'est un espion, en fait, il est appelé à aller un peu partout dans le monde. Et le film, d'ailleurs, se déroule un peu partout dans le monde. Et il y a, moi, je trouve, c'est très rapide, hein, souvent, mais c'est une reconstitution qui fonctionne très, très bien. Ça se passe pas mal à Paris. Et comme ça, dans les années 90, ils sont même jusqu'à aller à remettre les poubelles de l'époque, en fait, dans les rues de Paris. Et quand toi, t'es parisien.
Ils ont enlevé les Vélib.
Alors, ouais, non, mais alors, le truc, c'est que si tu regardes vraiment de près.
Il y a des grosses incohérences.
Il y a des incohérences si tu regardes de près, évidemment. Mais il y a quand même un truc.
Volonté.
C'est un film à 5 millions. Hein.
Ouais,
je veux dire, il faut quand même arriver à. Voilà,
non, mais ce que je veux dire, c'est que tu mets Spielberg dans Munich, je suis sûr que l'enchaînement des rues est identique à la vraie vie. T'es dans le 5e et puis tu passes à Montmartre au détour d'un building, quoi, tu vois. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave.
Ce que je veux dire, en fait, si tu veux, c'est que l'ambiance est là, parce que là, tu parles de Munich et je suis d'accord avec toi, mais le truc avec Munich, c'est que c'est un film à 50 patates. Voilà, et puis Spielberg, il a les gens derrière pour la reconstitution. Là, l'idée, en tout cas, c'est que c'est relativement fidèle, je trouve. comment dire, à l'ambiance des années 90 qu'on a tous vécu dans Paris à l'époque. Et le truc, c'est que, et il n'y a pas que ça, les aéroports au Laos ou à Bangkok, il y a ce genre de choses, quoi. Et en fait, le truc, c'est que c'est un personnage, en fait, qui est amené à quitter sa femme en permanence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle lui reproche. Et le seul truc avec lequel il s'en va, à chaque fois, quand il part même en mission, c'est son tableau, en fait. Et qu'il ramène à chaque fois, en fait. C'est sa seule possession, voilà. Et c'est un tableau de maître, en fait. Mais même là, en fait, les gens ne savent pas, ils ne savent même pas si c'est un vrai ou un faux, en fait. Et toujours, en fait, toujours sur cette dualité, en fait, sur le personnage, toujours sur cette dualité, même sur les personnages qu'ils rencontrent, on ne sait jamais s'ils vont le tromper eux aussi ou s'ils sont vraiment fidèles. T'as un jeu, là où ce film se complexifie en plus, c'est que t'as un jeu en espagnol, t'as un jeu en français, parce que la plupart des, il y a pas mal de dialogues qui sont en français. Bon, t'as une couche d'anglais, évidemment, supplémentaire, voilà. Donc, t'as quand même un film qui est assez, moi, je trouve, assez dense, mais hyper ramassé, ça dure 2 heures. Moi je trouve que ça fonctionne vraiment bien d'un point de vue émotionnel aussi, c'est-à-dire qu'on pourrait totalement encore une fois détacher des enjeux humains, tu vois, pour retenir que l'aspect politique, la complexité de l'aspect politique, mais comme
à quel niveau émotionnel, parce que après ça dépend de ce qu'on veut dire en ressenti émotionnel. Moi j'ai pas été ni spécialement touché, ni spécialement bouleversé. Donc, quel type d'émotion tu...
Je parle tout simplement, en fait, de comprendre pourquoi ça pose problème à ce personnage-là que d'être enfermé pendant 4 mois dans une pièce, tu vois. C'est pas une question de pleurer. C'est pas Elephant Man, le film. Mais le truc, c'est que c'est pas un grand drame humaniste. Mais il y a une logique, en fait, quand tu mets en avant une logique politique dans un film, souvent, j'ai l'impression qu'on peut perdre, en fait, le point de vue de l'humain, en fait, pour des pures logiques de drame, de récit narratif. Et là, tout est toujours ramené à ça, en fait, en deux temps.
Oui,
tu comprends la relation, c'est un personnage complètement secondaire, mais cette gamine, en fait, qui part récupérer l'argent à Bangkok, ou au Laos, je sais plus, dans une banque, et qui rencontre Coronado au détour d'un truc et qui lui fait un doigt d'honneur, tu vois, comme ça, alors qu'on te l'a présenté lui une heure avant comme un homme à femme, tu vois. Exactement. Tu comprends en 2 secondes leur relation. Ça, pas plus d'incidence que ça, en fait, dans le film, dans l'absolu, quoi. Mais comme lui raconte son histoire à elle aussi, tu vois.
Ce que j'ai trouvé génial, parce que comme tu le disais, c'est un film à petit budget, donc c'est vrai qu'on arrivait à rendre captivant pendant 2 heures des personnages qui se trahissent, qui se manipulent, tout ça, avec dans des halls, quoi, parce qu'on est dans des halls d'aéroports, on est dans des chambres d'hôtel, on est dans des bureaux, on est rarement en extérieur, mais tout le film, et c'est pour ça moi que je le trouve plus intéressant que La Isla Mínima, qui était un très beau film, très bien écrit, mais où moi le seul ressenti, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'avais l'impression que c'était sur des rails et que ça en sortait pas, c'est-à-dire que ce soit en termes narratifs, en termes de construction de personnages, comme en termes de symbolique politique sur l'Espagne post-franquiste, La Isla Mínima me donnait un peu tout d'entrée de manière extrêmement évidente. Et peut-être aussi c'est notre défaut à nous d'avoir tellement bouffé de films qu'on voit peut-être des fois plus en détail certains symboles, certains enchaînements de plans, mais tout me semblait extrêmement clair dès le début, et plus le film avançait, plus je me disais, mec, quand est-ce que tu vas me surprendre, sortir des rails, parce que je l'ai compris ta thématique, j'ai compris tes persos, j'ai compris où tu veux en venir, et tu y vas tout droit, et à la limite on peut lui reconnaître une certaine constance. Dont celui-là, je trouve plus intéressant parce qu'il y a un petit jeu vis-à-vis du spectateur qui n'avait pas dans l'autre. L'autre, c'était j'essaye, entre guillemets, de faire le film parfait. J'avais ce sentiment-là en voyant La Isla Mínima de me dire c'est le manuel du petit film de genre parfait. Là, le mec, il prend ce truc-là de dire je vais presque vous noyer sur les circonvolutions d'intrigue, et elles sont complexes et on a du mal à suivre. Et tout ce que tu dis là, je suis complètement d'accord, et je pense que c'est ça la force du film, c'est que des fois, ça va nous obliger à regarder de travers, à lire entre les lignes, à voir ce que ne disent pas les personnages, mais qui se passent dans leur regard. Et c'est comme s'il y avait 2 films. Il y a une intrigue qui est captivante et que tu suis, et puis derrière, tu passes une bonne partie de ton film à essayer de te dire, mais c'était quoi ce regard? C'était quoi ce geste? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Je comprends pas le perso. Et ça, c'est fascinant en termes de travail pour le spectateur vis-à-vis
du
film.
Et puis le truc, c'est que voilà, ça travaille sur même, encore une fois, des personnages secondaires totalement. Cet espion qui vient le chercher deux fois dans le film, en fait. Et qui a l'air complètement désabusé, et tu comprends que les mecs se connaissent depuis 30 ans, en gros, et que, en gros, ils veulent pas être là où ils sont, mais il y a voilà, il y a un dialogue qui s'instaure dans le regard, quoi. C'est voilà, il y a plein de trucs comme ça où bah moi je trouve que voilà, ce type.
Et puis ça casse les habitudes qu'on a narratives aussi, de construction narrative. C'est pas un film qui fonctionne sur des actes habituels, des espèces de climax émotionnel à un moment ou des retournements de situation. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans une logique complètement différente qui fait qu'on est un peu déstabilisé, mais c'est super intéressant.
Voilà, donc bon, du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment bien maîtrisé.
C'est très élogieux tout ça.
Ça vaut vraiment.
Mais c'est un bon film.
C'est un vrai bon film. Il faut aller le voir en salle.
Il sort la semaine prochaine.
Il sort, ouais, c'est ça, le 12.
Le 12, ouais. Et sorti le 12, comme diraient les nuls.
Exactement.
Et je signale juste que c'est un film de 2 heures, donc c'est pas non plus un film très long. C'est la mode en ce moment de faire des. C'est dense, mais voilà, c'est pas un film de 3 heures ou 4 heures.
Non, mais c'est hyper carré comme film. C'est vraiment, ça fonctionne sur tous les niveaux.
Et puis c'est intelligent. C'est intelligent, c'est rare en ce moment des films intelligents.
Est-ce qu'on peut espérer voir ça dans pas mal de salles ou ça va être difficile, il va falloir courir comme d'habitude?
Bonne question, j'en sais rien.
On ne sait pas encore.
Non, il y a quand même des chances. Il y a quand même des chances que ça soit relativement bien distribué, mais peut-être pas forcément au niveau d'un film américain, évidemment. Mais bon, c'est quand même un film qui est vendeur en France, parce qu'encore une fois, ça se passe dans Paris, ça se passe dans les années 90. Donc voilà, ça se passe pas dans Paris tout le temps, mais ça se passe quand même une bonne partie dans Paris. Il y a des dialogues français, tout ça, etc. Donc c'est possible que les mecs le mettent un peu en avant. Voilà.
Très bien. Bon, bah ça donne envie. L'homme aux mille visages d'Alberto Rodriguez, qui sort la semaine prochaine au cinéma. Allez le voir. Rafik a une petite larme sur la musique de Kenji Kawai.
Oh non, tu sais, il était en train de se souffler, c'est pas du Jerry Goldsmith quand même.
Mais si, il apprécie.
C'est même pas du Yoko Kanno.
Ouais, mais c'est bien quand même. C'est magnifique, bien. Magnifique musique de film de cet extraordinaire film d'animation qui est Ghost in the Shell, le film original qui ressort en version complètement remasterisée chez Atanim en Blu-ray et en DVD.
Actualité oblige, hein.
Actualité oblige, évidemment, par rapport à la sortie du film.
Sans le lifting dont il avait fait l'objet il y a quelques années.
Oui,
c'est ça. Alors sur cette édition, c'est ça le truc. C'est qu'elle est assez complète, mine de rien. Il y a tous les making-of d'époque. Mm-hmm. Il y a un petit module sur la resto.
C'est pas le Ghost in the Shell 2.0.
Alors si, il y a les deux.
Il y a les deux, en fait. Il y a les deux versions.
Mais justement,
voilà,
ça l'intéresse. C'est-à-dire que le Ghost in the Shell 2.0, qui est soi-disant une tentative de le raccrocher à Innocence, mais moi je trouve extrêmement maladroite. On dirait quand même des versions images de synthèse PlayStation 1. Dieu sait que je déteste ce genre de remarques en général sur les gros films à effets spéciaux. Mais là, c'est vrai, ça ressemble vraiment à des cinématiques, enfin PS2, quoi. Et le truc, c'est que c'était une tentative de raccrocher ça à Innocence. Moi, je trouve complètement balourd et raté. Et c'est la première fois qu'on arrive, en tout cas en France, à avoir le vrai film d'origine de 1995 dans sa version d'origine, donc sans ses rajouts pourris.
Et nous, on l'avait projeté au Max Linder il y a 3 ans, lors d'une nuit Japanim.
Ça a dû cartonner.
Ça avait cartonné, et surtout, on avait passé la version d'origine de 1995. Sûr, hein, ouais. On avait refusé catégoriquement de passer la version.
Ah, tu m'étonnes. Donc là, j'ai l'impression qu'elle est plus. C'est un bonus, en fait. Si tu veux, elle est là pour dire que ça existait, mais vraiment, t'as le projet d'origine qui est là, quoi, le film dans le meilleur écran possible. Et que dire, mais après, sur Ghost in the Shell, en vrai, c'est vrai que si. Enfin. Pour pas faire forcément une critique du remake live là qui vient de sortir de Rupert Sanders, on va dire que le problème de cette adaptation, c'est qu'elle
tu parles du remake live.
Ouais, c'est qu'elle perd complètement l'essence en fait de ce qu'est Ghost in the Shell. Pour avoir revu le film très peu de temps avant de voir justement le remake live, la version live, t'as une espèce de logique métaphysique en fait qui est complètement pertinente encore aujourd'hui 20 ans après dans le film de Mamoru Oshii. Un référent, enfin clairement influencé par Tarkovsky sur la façon de mettre en scène et les plans. Et là, en fait, le remake live, c'est Robocop, en gros.
C'est pas seulement
graphique.
Tarkovsky. Puis je pense pas qu'on puisse parler vraiment de métaphysique, de philosophie, oui, mais pas forcément de métaphysique.
À un moment donné, les mecs ils te posent la question. Enfin, je suis désolé, mais tu revois le film, les mecs ils te posent carrément la question de savoir si c'est un intérêt d'avoir un corps humain.
Métaphysique, c'est vraiment l'idée de parler des principes mêmes, en fait, au-delà des incarnations, etc. Mais genre, ce qui est intéressant de rappeler, enfin, quand je vois l'accueil embarrassé qu'il y a par rapport à ce nouveau film que je n'ai pas vu, hein, j'ai pas vu cette version live, je vois l'accueil embarrassé des gens qui disent oui, quand même, c'est un petit peu Ghost in the Shell pour les nuls, voilà. ils disent ça gentiment, si tu veux. Moi, je n'ai pas vu ce film-là, mais je pense que le dénivelé est encore plus impressionnant que ce que ces critiques peuvent amener, et il vient d'une chose toute bête, hein, c'est de la considération même de ce que c'est que la science-fiction. C'est-à-dire que quand tu parles d'un film comme Ghost in the Shell, le film qui arrive en 95 sur nos écrans, il a une gestation lourde qui est faite par des gens qui ont été chercher ce qui était pour eux le plus haut point d'érudition. C'est-à-dire que Masamune Shirow, qui est à l'origine du manga, son inspiration, elle vient pas des autres mangas qu'il a lu dans sa jeunesse. Son inspiration, elle vient des livres, des ouvrages d'Arthur Koestler, donc philosophe, qui reprenait les théories philosophiques de Gilbert Ryle sur l'identité. En fait, Gilbert Ryle avait parlé, c'est un gars qui a, Ryle avait critiqué violemment le dualisme cartésien au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui pour lui était une limite que l'Occident se mettait dans son évolution, quoi. Et en critiquant ce dualisme cartésien, il avait parlé du dogme du fantôme dans la machine, en fait, par rapport à l'idée qu'il y aurait l'esprit et le corps, mais alors où se trouve l'esprit dans le corps, blablabla. Bon, tout ça, il le foutait en l'air. Tout ça, c'est des problèmes d'erreurs catégorielles, disait-il. C'est un dogme de l'esprit dans la machine. C'est-à-dire, c'est le dogme d'une civilisation qui est tellement matérialiste qu'elle est obligée de considérer l'esprit comme une chose, en fait, quoi. Et cette idée du fantôme dans la machine a été reprise donc par Koestler dans un bouquin qui s'appelait The Ghost in the Machine, qui en France est sorti sous le titre, je crois, c'était Le Cheval dans la Locomotive, quelque chose comme ça, qui est sorti en 67 et qui a servi vraiment de base de travail à Masamune Shirow, qui fait vraiment de la prospective de SF. C'est-à-dire, Masamune Shirow, c'est un type qui, quand il design ses robots ou ses vaisseaux, etc., il pense que ces trucs-là doivent vraiment exister, donc il les réfléchit jusqu'au bout. Et il va s'inspirer des meilleurs, quoi, des philosophes, des scientifiques, donc tout ça, si tu veux, arrive entre les mains de Mamoru Oshii, qui lui est un cinéaste plus porté, on va dire, vers la poésie. Il avait fait des films avant, des films live pas terribles d'ailleurs, mais très dans un esprit un peu européen, quoi,
influencé,
avant-garde, effectivement influencé en partie par Tarkovsky. Mais une espèce de poésie urbaine, etc. Et c'est ce mélange-là d'érudition artistique, scientifique, philosophique, qui te donne un objet complètement dingue comme Ghost in the Shell, qui porte en lui tous ces éléments. Quand on fait un remake live de Ghost in the Shell aux États-Unis aujourd'hui, on fait un remake qui fait référence, comme tu l'as dit, à Robocop, à d'autres films de SF, au dernier truc qui a marché, ou au mieux au manga d'origine.
Mais parce que le questionnement se pose en fait par rapport à l'humain. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand tu regardes le film de Mamoru Oshii, il y a par exemple un truc, et là c'est pas forcément pour faire encore une fois la critique du live, hein, mais t'as un questionnement par rapport au corps. Le personnage, par exemple, du Major se pose absolument jamais la question de qu'est-ce que son corps renvoie, par exemple, si tu veux, aux autres personnages. Donc là, quand tu prends Scarlett Johansson, qui est quand même censée être la bonasse du moment, on va dire, au cinéma, quoi, la super actrice, qui fait tomber les Jones et tout, bah forcément, en fait, d'un seul coup, tu l'incarnes beaucoup trop par rapport à ce que le personnage est censé être incarné. Même, en fait, tu lui donnes
déjà Kusanagi, elle avait été dessinée d'une d'une certaine façon son personnage
qui correspond pas du tout à
son personnage, un physique de louve en fait. Elle a les yeux gris,
elle est hyper fine, un nez
très avancé comme un museau en fait, parce que c'est
pourquoi elle a été prise, on va dire.
L'idée, on est au-delà du miscast, on est vraiment dans le miscast de prendre un visage qui ne reflète pas ce que le personnage devrait être. C'est un personnage qui devrait avoir un regard perçant, presque angoissant.
Et
c'est la raison pour laquelle dans le dessin animé de Mamoru Oshii, on la voit en gros plan fixe, elle fixe la caméra, il y a une scène entière de discours qui doit durer, je sais pas, 2 minutes à l'écran, où elle fait un speech face caméra en regardant le spectateur dans les yeux, tu vois, avec des yeux d'acier, quoi. Et donc prendre, je suis désolé, hein, mais quelqu'un qui a le regard bovin, enfin, Scarlett Johansson, je la connais pas personnellement, j'aurais tendance à répéter mes phrases 2 fois pour être sûr qu'elle les comprenne, quoi. Ça a pas l'air
c'est
d'être
pas
une
très
flèche,
gentil,
quand même.
C'est un préjugé que je trouve un peu audacieux.
Bah, c'est le regard parce que son regard renvoie l'idée qu'elle est toujours en train de se demander.
Le truc, en tout cas, ça c'est une chose. Mais le truc, en tout cas, c'est que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que de toute façon, le problème du film, c'est qu'il se pose le problème de l'adaptation, j'entends, c'est qu'il se pose la question vis-à-vis de l'original, en fait, sous de mauvais angles. C'est pas que le problème de Scarlett Johansson, c'est le problème de Scarlett Johansson qui veut pas jouer à poil, que le studio ne veut pas laisser jouer à poil dans un film PG-13, que la nana, en fait, si tu veux, qui a une combinaison, translucide, alors que c'est sa peau, en fait, le cyborg, quoi, dans l'original. Et là, en fait, elle met un costume, en fait, qui ne dévoile pas son visage, donc du coup, c'est même plus cohérent en termes de SF. Et quand je dis c'est Robocop, c'est littéralement Robocop. En fait, en gros, si tu veux, le problème de cette adaptation, c'est que il y a cette idée d'aller chercher le ghost que c'est, et là je vais spoiler parce que le film est sorti, tout le monde l'a vu, on s'en bat les couilles, mais voilà. Mais le truc en vrai, c'est que elle a un nom américain, le personnage a un nom américain, et en fait on lui a cherché l'identité, le ghost qu'elle a, c'est le Major Tsukunagi, tu vois, enfin voilà. Donc en fait, si tu veux, t'as un espèce de méta en fait dans le film qui cherche à avoir le ghost de l'original dans sa propre enveloppe, de pub pour parfum ou de je sais pas quoi, en fait, la façon dont c'est filmé, tu vois, en version américanisée. Donc du coup, en fait, t'as un vrai recul vis-à-vis de ça. On a bien défriché quand même aussi le terrain sur l'original. Et l'idée, c'est ça, c'est que
différentes déclinaisons, hein, qui en France ont pas été le premier.
On a été distribué quand même.
On a eu beaucoup de chance que le premier sorte en salle. Donc on a
Innocence
aussi.
Et Innocence aussi.
Alors Innocence, c'était encore mieux. Il faut saluer pour le coup ce qui avait été le courage du festival de Cannes à l'époque, de le mettre en sélection officielle. Je ne sais pas si vous imaginez le bordel que ça a généré dans les coulisses du marché. Moi, j'étais à Cannes cette année. Enfin, je veux dire, les mecs, ils en revenaient pas, quoi. T'étais en train de foutre un catégorie 3 dans une école maternelle, quoi. Enfin, je veux dire, un dessin animé japonais de SF à Cannes, c'était...
Oui, puis surtout qu'Innocence était ardu, quand même.
Hein. Et en plus, ardu, ils lui ont fait payer très très cher à Thierry Frémont ce choix. C'est pour ça que l'année suivante, il a fait marche arrière et il est revenu aux habituels.
Oui, voilà. Mais voilà. Pour quelle raison ?
Comment ?
Pour quelle raison ?
Parce que la presse a un certain pouvoir à Cannes sur lui, quoi.
Pour quelle raison ça posait un problème ?
Yann, en France, tu as quand même vécu les années 80 avec Ségolène Royal qui tape sur les mangas.
À ce point-là.
C'est de la SF, c'est du manga, c'est japonais. Enfin,
donc ce monde est encore plus con que je ne l'imaginais.
On est d'accord.
Tu devrais aller traîner à Cannes, tu vas te faire un copain là-bas.
Plutôt me flinguer, quoi.
Et donc c'était très courageux de le proposer là-bas. Et ensuite, grosse machine arrière, puisque donc la série SAG n'est carrément pas passé chez
nous. Standalone Complex.
Standalone Complex, merci. Et sa suite, enfin, il y a eu 2 saisons.
Mais c'est sorti en vidéo, tout ça.
C'est sorti en vidéo. Ouais. Et Solid State.
Et
le film, le long métrage Solid State Society, qui faisait suite à ces 2 saisons, n'est pas sorti non plus en salle. Il est sorti pareil directement.
Et qui est pas
directement
très bon, je crois.
Ah si, c'est pas mal.
Ouais, c'est bien. Il y a un Ghost in the Shell, The Movie.
Oui, The New Movie, que je n'ai pas vu.
Ah oui, alors c'est voilà. Ça qui est, paraît-il, pas très bon. Ouais.
Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, on part sur la logique de remake, c'est l'excuse, mais...
Ce que je trouve amusant, ouais, pardon, j'essaie de faire vite, mais on parle quand même d'une franchise assez large et mal distribuée, finalement, en France. C'est que les deux saisons et Solid State Society, en fait, se sont faites dans non pas dans l'héritage philosophique des films, mais dans un héritage, là, pour le coup, beaucoup plus sociologique, avec des références étonnamment européenne, voire française. Enfin, la série Standalone Complex fait référence à Alain René, fait référence à Godard. Il y a un personnage de bad guy qui est une espèce de mix entre Guy Debord et Mishima. Enfin, genre, voilà, il s'appelle Patrick Sylvestre, le mec. Et en fait, parce que les scénaristes de la série étaient plus des gars qui sortaient d'école de sociologie, curieusement, qui n'avaient pas forcément été nourris de SF, mais qui avaient lu du Bourdieu, des trucs comme ça, et qui t'ont fait une intrigue de SF, donc complètement incroyablement intelligente par rapport à ce qu'elle dit de la société dans laquelle on vit, mais en travaillant sur ces grands sociologues.
Et du coup, c'est vrai que si tu pars du principe de la logique de tout simplement de la franchise en soi, c'est-à-dire telle qu'elle existe au Japon. Effectivement, arriver à ce film, cette adaptation live, c'est complètement aberrant.
Il faut rappeler aux gens à quel point c'est pris au sérieux quelque part ce truc, et à quel point nous, quand on fait effectivement, enfin nous les Occidentaux, quand on fait du truc avec les doudous de Scarlett Johansson, c'est juste non mais les gars, c'est Ghost in the Shell, tu vois, t'as envie de leur dire, vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Enfin, je veux dire, quand Ghost in the Shell fait référence à Godard et René, il y a des gens qui trouvent ça normal. Enfin, dans la lignée Intello, je sais pas quoi. Donc voilà. c'est ça qui est dingue.
Donc en gros, ce que Rafik essaye de dire, c'est que si vous aimez Godard et René,
il faut acheter l'édition spéciale Fnac parce que c'est la plus intéressante. Elle est en Steelbook Collector Blu-ray. Elle est encore disponible. Elle vaut moins de 30 euros.
Enfin, non, mais il y a aussi un épisode en hommage à Martin Scorsese et à Kubrick, si vous voulez.
Quand même. Et donc, le Ghost in the Shell, qui est un chef-d'œuvre. Si vous avez pas ça dans votre vidéothèque, il vous manque quelque chose. En plus, l'édition spéciale Fnac, il y a le score de Kenji Kawai qui est dedans, qui est avec, offert, et un livret. Donc voilà, ça vaut le coup.
Et au-delà de son délire, enfin de sa valeur, de sa vraie valeur cinématographique et esthétique, de ce que ça dit en fait, pas seulement le film, enfin les deux films et les suites, donc enfin ces séries télé. Moi, je vais là, c'est aujourd'hui, on a passé un beat sur le big data, par exemple.
Parle de ta beat justement.
Si un mec comme moi comprend à peu près quels sont les enjeux qui sont derrière le big data, c'est parce qu'il y a 10 ans de ça, je me suis maté des Ghost in the Shell, tu vois. C'est aussi des trucs qui t'ont préparé à la société dans laquelle t'es en train de vivre.
Un film extrêmement riche en thèmes et en plein de choses. Voilà. Transition complètement nulle.
Rafik a tout dit, c'est bon.
Rafik a tout dit et il dit toujours tout. Là, on passe dans un autre univers, beaucoup plus cristallin. La musique de Pino Donaggio. Pour l'esprit de Cain.
La musique est cristalline, le film un peu moins.
Ouais, c'est clair.
L'esprit de Cain de Brian De Palma. Pourquoi tu as envie de nous parler de ce film, Stéphane ?
Écoute, c'est pas mon De Palma préféré, loin s'en faut.
Ça fait rire Rafik.
Pourquoi ?
L'esprit de Cain.
Non mais alors, justement, alors moi je vais te dire un truc.
Avant qu'on rentre...
Attendez, placez le film 1992.
1992, le film sort, en fait c'est De Palma qui revient à ce pourquoi il est connu, et détesté par quand même une frange de la critique, hein, parce qu'il faut se rappeler de la réception de Body Double, il faut se rappeler de la réception de Sœur de Sang ou
mais Les Incorruptibles, ça avait cartonné.
Non, là je te parle d'un thriller. Je te parle de ce qu'il fait.
Scarface se fait défoncer. Casualties of War se fait défoncer.
Revenons à l'idée que c'est un film qui est censé être dans la lignée de Sœur de Sang, qui est censé être dans la lignée de Obsession. Pulsion. Voilà, c'est un vrai thriller Hitchcockien. Je mets les guillemets parce que c'est la logique. Et en fait, le truc, c'est que je mets les guillemets parce qu'en fait, si tu veux, en gros, après, ça ressemble vraiment à du De Palma aussi. C'est ça le truc. Et au final, il a quand même fait ça. Il a fait en sorte que ça lui ressemble. Et le truc, c'est que en fait, il sort à ce moment-là où il fait le film. Il sort de deux gros bides qui ont affecté sa carrière. Il avait justement eu le succès des Incorruptibles, très gros succès, plus gros succès que sa carrière à l'époque. Et juste après, il fait un film que je trouve formidable, qui est Outrage. Et un autre film que je trouve formidable aussi, même si c'est une trahison par rapport au livre, qui est l'adaptation du Bûcher des Vanités.
Ah oui, que j'aime beaucoup.
Un grand film satirique, je trouve.
Et qui se fait défoncer la gueule.
Et qui s'est fait défoncer la gueule, et surtout en fait, qui a été un budget monstrueux et un gros bide. Donc du coup, à ce moment-là,
casting de folie.
Voilà. À ce moment-là, De Palma revient à, on va dire, ses premières obsessions. et fait l'esprit de Cain, qui est une idée qu'il avait depuis un moment en tête et qui reprend. Le film sort en salle. Je pense que tous les gens qui jusque-là étaient plus ou moins, on va dire, bien chauffés par le talent de Palma ont dû, je pense, hein, dérouiller sévère. Il y a quand même quelques fans, hein, il y a quand même quelques fans du film. Mais il faut savoir en fait que la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que ça ressort en Blu-ray.
Et oui.
Dans une édition un peu particulière.
Tout à fait.
Alors,
collector, Blu-ray, deux Blu-ray.
Voilà, il y a deux Blu-ray. Et
plus un DVD.
Voilà, et le truc, l'idée, c'est qu'il y a dans cette édition un bonus très spécifique, qui est un bonus, en fait, qui est un director's cut, qui n'est pas vraiment un director's cut. C'est-à-dire qu'en gros, quand en 1992, De Palma, au montage, a décidé, en fait, de changer le film en changeant l'ordre des séquences. Et il a fait passer, en fait, toute la trame, en fait, du Dr. Nix, en fait, qui est interprété par... dire brillamment interprété par par John Lithgow, qui en fait quand même juste des milliards de caisses, quoi. Comme je crois que t'as jamais même à la limite, c'est Laurence Olivier dans Cliffhanger à côté. Donc tellement
ouais,
il est
super dur les mecs.
Non mais c'est chaud quand même. Il
y a des trucs chauds.
Attends, mais laisse-moi terminer. Je termine juste le truc parce que après tu nous expliqueras, il y a pas de problème. Et le truc en fait, si tu veux, c'est que donc ça commençait par là dans la version salle. Pour ensuite arriver sur l'histoire d'amour de Lolita Davidovich avec Steven Bauer qui retrouve aussi De Palma après Scarface, 10 ans après, et pour se terminer en fait sur le climax donc du film. Et c'est l'histoire d'un psychologue pour enfants en gros qui a des problèmes de personnalité. En gros, c'est Split 25 ans avant et qui a des troubles de la personnalité et qui kidnappe les enfants qu'il est censé traiter pour aider son père, en fait, qui est aussi un psychologue pour enfants renommé, suédois, etc. Bref, donc là, c'est le gros truc. Et au milieu, il a d'un côté une vie parfaite avec sa femme qui est juste une apparence, quoi. Et d'autre côté, en fait, il a ce double en lui-même qui est une version de lui-même avec des lunettes noires, les cheveux débraillés et le perfecto sur le dos pour montrer qu'il est quand même très méchant. Donc là, c'est quand même une vision du méchant rock'n'roll des années 50, quoi. Et c'est Joss Lico qui le joue comme ça. L'avantage de cette édition, c'est qu'elle présente donc en fait un montage qui a été fait par un fan du film, qui est hollandais, je crois, et qui avait trouvé... qui a trouvé en fait le script sur Internet, qui s'est rendu compte que le film n'était pas dans le bon ordre.
Il s'appelle Pete Gelderborn.
Voilà, merci,
Gelderblom.
C'est ça. Et en fait, comme il a trouvé le script sur Internet, il a décidé de remonter le film dans l'ordre, avec les séquences dans l'ordre. Donc c'est un directeur qui est très spécial, parce qu'il n'y a pas une seule scène supplémentaire. Tout est remis, en fait, juste à l'endroit. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'histoire d'amour de la...
Tu démarres par le problème conjugal, voilà, avec la nana qui le trompe.
Exactement.
Et tu prends par fait et cause, on va dire, pour le mari cocu, on va dire, avant de découvrir que le mec a des problèmes.
Un baise malade.
Voilà.
Voilà. Et un sick fuck. Et donc, le truc, c'est que De Palma a fini par voir cette édition sur le net, enfin, cette version sur le net. Il a dit, c'est exactement ce que j'ai raté à l'époque, vous avez réussi. Il faut impérativement... Il a contacté le monteur, voilà, de cette version, et il lui a dit, il faut impérativement que vous contactiez les gens de qui vont sortir le Blu-ray. Alors chez nous, c'est les fans de films, mais aux États-Unis, je crois que c'est Shout Factory. Non, mais tu sais, les studios ne ressortent plus leurs films, hein, ils sous-traitent. Et il leur a dit, il faut que cette version soit incluse, et elle portera l'appellation Director's Cut. Ce qui explique donc pourquoi, en fait, on a ces deux versions aujourd'hui qui sont reprises chez les fanfilms. Et même si moi, le film me pose d'énormes problèmes, mais on va en discuter avec Yannick, tu as vu cette version, toi, tu as revu cette version, voilà. Ouais. Même si le film me pose d'énormes problèmes, c'est quand même super intéressant, en fait, de revoir ça sous cet angle-là. Moi, j'ai quand même eu du mal à me sortir un peu de ce que je me rappelais du film d'avant. Parce que mine de rien, j'ai beau ne pas l'avoir revu depuis 25 ans.
Mais c'est ça que je veux dire. Ce qui est marrant, c'est que moi, je n'ai pas revu le Raising Cain que j'avais vu au cinéma à l'époque, et duquel j'étais d'ailleurs sorti assez dubitatif, quoi. Pareil, en étant un petit peu, bon, il y avait des choses qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient. Et moi, ça a été une super agréable surprise.
Ah ouais.
C'est-à-dire que je le savais, évidemment, dans ma tête, je me rappelais tout à fait la caricature du perfecto et ce que j'aimais pas à l'époque, ces espèces de méga grands angles sur les personnages qui les créaient, bon, qui qui était un procédé qu'il utilisait aussi dans le Bûcher des Vanités.
Tout à fait, bien
et qu'il frit et qu'il fait
la caméra qui penche oui, voilà, les escalators. Voilà, enfin,
bah, bah, il fait vriller vers le grotesque à certains moments, mais ça c'est un truc qu'il a toujours eu et souvent chez De Palma.
De Palma, sauf qu'il avait tendance à pas tomber.
Oui,
il était toujours en équilibre.
Bien sûr. Oui, mais alors du coup, ce que je veux dire, c'est que ça, je l'avais en tête, donc je le savais, donc forcément, ça allait pas m'énerver en regardant le film. Mais donc je redécouvrais l'histoire, je redécouvrais la façon dont il était structuré. Et là, moi, j'ai pris une claque. Et alors, est-ce que c'est dû à ce remontage ou est-ce que j'avais sous-estimé le film à l'époque? Je pense que c'est vraiment dû à ce remontage-là, parce que ça devient une incroyable œuvre sur le cinéma. Plus encore, moi, je trouve que ça a toujours été un cinéaste du cinéma, entre guillemets, de Palma, puisqu'il est très ostentatoire dans sa mise en scène. Mais là, pour le coup, il y a un truc, et alors c'est marrant, hein, parce que tu vois, la vie fait bien les choses, mais deux jours avant, je voyais Mademoiselle, et j'avais écouté ce que vous en aviez dit, et je me faisais la même réflexion, et j'ai pris une énorme claque, moi, en voyant le Mademoiselle, et ce travail sur l'illusion, la manipulation, le mensonge, presque dit, littéralement, à travers l'intrigue dans Mademoiselle, ici, est littéralement fait dans le découpage, dans la mise en scène, dans cette façon tout d'un coup que ça a de passer de l'onirisme à... Alors, on sait jamais. C'est-à-dire qu'on passe d'une scène à une autre, on se dit, alors attends, c'est un rêve, mais non, mais en fait, peut-être si, mais non. Et c'est... Du coup, ça devient hyper galvanisant. Je trouve ça hyper excitant à regarder. Je trouve que cette manipulation marche à mort, que la façon dont les morceaux s'imbriquent petit à petit, même si ça mène vers des enjeux, bon, voilà, ils sont ce qu'ils sont.
En fait, il faut dire, parce qu'il faut préciser par rapport à ce remontage aussi, si tu veux, c'est qu'il y a des vrais moments où entre le rêve et la réalité.
On sait plus.
Il y a des moments où, en fait, on sait même plus à quel alors, est-ce que c'est nous qui savons que c'est remonté en regardant le film? Et donc, du coup, en fait, on se demande pourquoi ce personnage apparaît à ce moment-là.
Mais moi, non, je l'ai pris vraiment comme un spectateur lambda, tu vois, vraiment. Et je l'ai vraiment vécu comme ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant.
C'est vrai que t'as l'impression qu'à l'époque, il s'était décidé à remettre le film dans l'ordre, parce qu'il s'est dit, ça va larguer les gens. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé, parce que même quand il a présenté le film à Deauville, il y a eu des gens qui éclataient de rire dans la salle.
La presse a globalement été morte de rire. Alors, elle avait été morte de rire sur d'autres films prestigieux, en l'occurrence Scarface. Il faut ne jamais oublier, il faut rappeler tous les deux mois aux gens que Scarface était le film le plus ridicule de l'année de sa sortie, selon à peu près tout le monde. mais le truc, en fait, c'est que ce qui est bien, en remettant un petit peu le contexte de l'époque, c'est que De Palma avait eu cette phase Hitchcockienne, on va dire porno-Hitchcockienne, porno-chic-Hitchcockienne au début des années 80, qui a valu une super mauvaise presse, mais en fait, il a commencé à en voir les effets dans le cinéma au début des années 90. Au moment où lui, justement, se prenait plein de trucs dans la gueule avec Casualties of War et Les Bûchers de Vanité, il voyait des mecs faire du poste de Palma et avoir un certain succès. Donc, en 91, il y avait eu le Philo Johannou, là, qui avait sorti
State of Grace, non,
Sans Chaud pour Meurtre
de Sang Froid. Final Analysis,
qui se voulait un thriller stylistique post Hitchcockien.
Enfin, c'était quand même bien nul.
Il y avait Scorsese qui avait fait Les Nerfs à Vif, qui était aussi, c'était pas un remake d'Hitchcock, clairement Hitchcockien dans sa structure, et qui arrive à peu près au même moment que Raising Kane.
Tu vas nous parler de Dead Again?
Voilà. Non mais tu vois, et du coup, je pense que de Palma, il a dû se dire, putain, mais c'est moi qui ai lancé ce truc là quoi.
C'est un film de frustré qu'il a fait.
Voilà, c'est ça. Et non, mais en même temps, frustré oui et non, parce que de ce que j'ai compris en découvrant donc le documentaire qui lui a été consacré récemment, là, qui est passé sur Arte, c'est que c'est une des périodes les plus heureuses de sa vie, puisque il venait de s'installer avec Galen Erd, qui venait de piquer à James Cameron.
Mais
et la moitié du film, dit-il, est tourné
qui a produit le truc.
Non mais ils tournaient chez eux. C'est-à-dire le jardin, c'est le leur. Il dit dans l'interview que ça lui sert de souvenir familial. En fait, il regarde les plans du jardin, des gosses et tout ça. Donc il est quand même dans un petit, entre guillemets, un peu sur un nuage à ce moment-là. Enfin, dans une phase tranquille. Et il sait plus.
Il a eu un enfant avec elle. En plus, effectivement, à l'époque. Il me demande si c'est pas son seul enfant d'ailleurs. Mais le truc, c'est
qu'il est tellement pressé de faire du lui-même qu'il se parodie quoi. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose.
Le film, il est vraiment bizarre. Moi, ça m'a fait plaisir de le revoir dans l'absolu, mais j'avoue que j'ai pas eu une redécouverte en fait comme toi, Yann. Tu vois, le truc, c'est que ça a vraiment été un truc où je me suis dit ah ouais, le John Lithgow, c'est quand même un putain de problème.
Oui, non, mais d'accord. Évidemment, moi, j'aime pas le final qui ont fait des caisses.
En fait,
je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois tellement, je n'arrive plus à être excité 90% du temps parce que je vois au cinéma, parce que c'est de la paresse systématique.
On est d'accord,
hein. Et que là, tout d'un coup, même si ce n'est que les 45 premières minutes de ce Raising Kane, en 45 minutes, je prends du cinéma dans la gueule, je prends des audaces de construction,
narrative.
Il y a des plans de ouf, il y a des trucs, il y a des expérimentations, il y a des trucs. Tu vois, le fameux mythique plan séquence, moi, ça me fait marrer. Bon, je vois ce qu'il a voulu faire, je vois la symbolique de tortueux et tout ça. Il est un peu alambiqué pour rien, mais.
Non, mais il y a toujours,
plein de tentatives.
Il a des figures. Hein. C'est-à-dire qu'il a des figures qui reprend le plan séquence. Il est dans le bûcher des vanités. Il est dans l'impasse qui était fait après.
Bien sûr.
Il était dans.
Il y a le plan Inferno. Hein, parce que moi, je sais qu'il avait déjà fait référence au Giallo dans ses films américains de la fin des années 70, mais c'était beaucoup plus discret. Mais là, il reprend carrément le plan de Inferno ou Ténèbres, je sais jamais. Non, je crois que c'est Ténèbres. Avec la nana qui est dans le champ et qui se baisse pour ramasser un truc et le tueur qui est derrière.
C'est le plan final, d'ailleurs.
Ouais. Ouais, mais c'est même là, t'as John Lithgow qui ne fait rien et qui est quand même pas possible. En fait, mais c'est vrai.
Moi, j'aime bien John Lithgow. Je trouve que tu charges un peu trop.
Moi, j'aime bien John Lithgow. Je l'aime beaucoup d'ailleurs dans Blowout. Je l'aime beaucoup dans. Il avait fait un autre film avec De Palma.
Il est dans plein de De Palma. Il est dans Obsession aussi.
Il en a fait trois. Il a fait Obsession. Il a fait Blowout et il a fait L'Esprit de Cain. Mais le truc, en fait, si tu veux, c'est que ce que je veux dire, c'est que effectivement, toutes les figures sont là.
Je crois qu'ils avaient étudié ensemble. En fait, il était dans ses courts métrages d'étudiants.
Et en fait, toutes les figures de De Palma sont là, mais effectivement, la question, c'est pourquoi... tu te poses pas la question sur le remake du film de Alain Corneau, tu vois, parce qu'on sait très bien ce qu'il est devenu De Palma depuis, on sait très bien que maintenant, il a passé son comment dire...
Il le dit, en plus.
Il a passé son cam, voilà, mais moi, Femme Fatale, c'est un film qui me pose énormément de problèmes et tout, mais le truc, c'est que c'est un film, j'ai essayé de le revoir, Femme Fatale, je peux pas le revoir, mais L'Esprit de Cain, c'est coincé entre Le Bûcher des Vanités et L'Impasse, merde. Tu vois, donc là, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me pose la question, je devrais aimer ce film, normalement. Je devrais l'aimer. Et en fait, je devrais l'aimer de manière inconditionnelle, comme j'aime de manière inconditionnelle L'Impasse, Pulsion...
Moi, je l'aime pas de manière inconditionnelle, mais je l'ai trouvé fascinant, quand même. Je le trouve fascinant.
Tu comprends ce que je veux dire? Et du coup, je me pose quand même la question de comment ça se fait qu'effectivement...
Entre Scarface, Les Incorruptibles, il y a West Guys, Mafia Salade, quoi. Donc, de temps en temps, le mec, il relâche un petit peu la pression.
T'arrives pas à passer le perfecto, et je pense que t'arrives pas à passer le grand angle qui force à la caricature. Donc, même s'il dit à John Lithgow, n'y va pas too much, rien que le plan, la lumière, le truc fait que...
Je crois qu'il lui a jamais dit n'y va pas too much sur le plateau, c'est pas possible.
Non, mais je pense que il l'a pas aidé, en tout cas.
Je pense que ces réalisateurs-là, et Scorsese aussi, un peu pareil, dans leur carrière, ils ont régulièrement des moments où ils doivent s'arrêter. Ils font un film, effectivement, qui dépasse trop, quoi, qui est trop vulgaire, trop machin, trop truc, trop bourré de plein d'effets, où ils expérimentent tout et n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et le film suivant, boum, ils reviennent tout frais.
Forme,
effectivement, Carlitos Way, qui est un de ses meilleurs films,
arrive juste derrière. Un film que j'ai vu, mais je sais pas, 30 fois, quoi, depuis que c'est sorti. Ouais. Quoi,
mais il avait besoin d'un bon crachat comme un bon crachat pour reprendre un peu
enfin,
de
en tout
quoi.
Cas, en tout cas, pour tout dire, voilà, je ça reste que si, en fait, tu veux étudier le cinéma de Palma. Et vraiment, enfin, tu vois, déjà, effectivement, ce documentaire dont tu parlais, qui est passé sur Arte, qui est réalisé, je crois, par, j'ai oublié son nom, mais le réalisateur.
Enfin, documentaire, interview, on va dire.
Ouais, interview, ouais, c'est ça.
C'est vraiment une longue interview, entrecoupée.
Voilà, c'est réalisé par un réalisateur, dont j'ai oublié le nom, mais on mettra ça dans les bonus. Enfin, pas dans les bonus, mais dans le texte pour le podcast. C'est une façon d'étudier, en fait, cette édition de Blu-ray, c'est une façon d'étudier le cinéma de De Palma de la même manière qu'en fait, voilà, si vous vous intéressez à son cinéma, bah c'est passionnant de voir les deux films back to back, les deux montages back to back, et voir en fait les distinctions, quoi. Mais même s'il faut arriver, je trouve, à sortir un peu du truc, quoi.
Mais peut-être avant de faire ça, donnez-vous la chance de découvrir ces director's cut frais comme un gardon, ouais, tu vois, sans avoir vu.
Ah, redécouvrir le film comme ça, c'est sûr.
Moi, en le redécouvrant comme ça, j'ai un bien meilleur souvenir de Raising Kain que quand je l'avais vu au cinéma.
Bon, bah écoute, tout ça est passionnant. On va donc acheter la version à 20€, qui est le prix, hein. Avec
chez
les
qui
deux, chez nos amis d'Amazon.
Ah, ok, d'accord. Okay.
C'est la même chose à la Fnac. Hein.
Ok. Ouais.
On termine vite. On termine vite juste pour dire, vous parliez des Goya tout à l'heure et je voulais juste vous signaler qu'un des films que vous avez absolument encensé au début de l'année, qui est le film de
Bayona.
Quelques minutes après minuit. Je cherchais le titre français. Voilà, quelques minutes après minuit a été nommé pour 12 Goya, ce qui fait que les gens des Goya sont d'accord avec vous. Hein.
C'est normal.
C'est normal. Donc si vous ne l'avez pas vu et qu'il n'est plus au cinéma,
je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu, 70 000
Vous ne l'avez pas vu et il faut vraiment le rattraper parce que c'est un putain de chef-d'œuvre.
Ok.
Voilà, film de l'année.
Film de l'année. Voilà. On arrive à la fin de cette capsule Capture Mag Hebdo, hein, qui fut rapide. Merci beaucoup, Rafik.
Merci, ma belle.
De ta présence. Merci beaucoup, Yannick.
Bah ouais, et puis à une prochaine. Hein,
à une prochaine. Bah oui, sûrement, tu reviens la semaine prochaine.
Bah je sais pas, il y a un truc
allez,
la semaine prochaine.
Allez, reviens
c'est
la, semaine
la semaine prochaine.
C'est
quoi
la semaine prochaine, les
films? C'est à Steven Seagal, je viens.
Non, d'accord. C'est Life.
Life,
c'est.
Ah oui, c'est vrai, je reviens la semaine prochaine.
Reviens.
J'étais perdu dans la boucle temporelle de Raising Kane, excusez-moi.
C'est ça. Stéphane, bonne soirée.
Pareil.
On signale que vous allez sur capturemag.net pour découvrir tous ces podcasts. Vous nous suivez.
5 étoiles, hein, sur,
5 iTunes, étoiles sur
iTunes.
Voilà.
Et les réseaux sociaux, mais les gens nous connaissent, t'inquiète pas,
c'est
David.
C'est ça, vous nous connaissez maintenant. Allez, on vous embrasse tous et on vous souhaite le meilleur. Le meilleur pour ce week-end de Pâques. Chassez bien les œufs. À plus, les amis. Ciao.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.